France Inter. Philippe Bertrand.
Carnet de campagne, bonjour. Mangez mieux, plus sain, si possible local et pour un tarif accessible, vous commencez à connaître le leitmotiv. Le produit présenté dans un instant sous le nom de projet de Quinoa Dive est le résultat d'une longue étude réalisée par un chercheur du CIRAD. Le CIRAD, c'est le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique. Et il s'agira d'un pain sans gluten composé à 80% de quinoa. Une campagne de financement participatif est prévue d'ailleurs pour réaliser le produit. Nous rendrons en visite ensuite dans le Tarn à Myriam Joly dans le deuxième temps de ses carnets pour évoquer la longue et belle histoire de son entreprise du patrimoine vivant, Miss Aigle.
Carnet de campagne. Le journal des solutions.
Didier Basile, bonjour.
Bonjour.
J'ai bien aimé votre courrier parce qu'il m'a intrigué. Vous écrivez « J'ai inventé un pain sans gluten à base de 80% de quinoa, sans aucun additif, très facile à fabriquer pour le particulier ou pour le boulanger alternatif. » Sauf que vous êtes d'abord chercheur, vous n'êtes pas boulanger vous-même.
Oui, je suis chercheur au Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement, qui est un centre de recherche public français où on travaille en appui pour les pays en développement. Donc je suis pas boulanger comme vous le dites, mais je travaille sur des productions agricoles et alimentaires à l'échelle mondiale et j'ai une compétence d'ingénieur agronome donc pour la transformation de ces produits.
Ouais, vous animez un réseau donc au CIRAD de plus de 300 chercheurs spécialistes en particulier d'un aliment dont on vante les mérites, que l'on connaît encore assez peu, on commence à le trouver évidemment un petit peu partout, c'est le quinoa. Quelles sont les vertus du quinoa?
Alors la particularité, c'est qu'il contient des protéines de très haute qualité, ce qu'on appelle les acides aminés essentiels, c'est-à-dire l'ensemble des protéines que le corps humain doit trouver dans son alimentation, qu'il n'est pas capable de synthétiser. Et en général, les aliments, des céréales peuvent contenir certains acides aminés essentiels, mais jamais l'ensemble. Et le quinoa, l'ensemble des 9 acides aminés essentiels, donc des protéines de très bonne qualité, en grande quantité et en équilibre entre eux.
Et donc on peut produire à partir du quinoa une farine utilisable dans la conception du pain?
Alors le principal problème des farines sans gluten, c'est que la pâte ne va pas lever. Le gluten donne la capacité à avoir un pain bien alvéolé, aéré. Et donc, en général, les industries de l'agroalimentaire utilisent beaucoup d'additifs. Donc, je vous passerai les noms, mais tout ce qu'on trouve de E410 à E415.
Oui. Donc, pas très bon pour la santé.
Pas très bon, qui peuvent générer des effets secondaires pour la santé, et en particulier pour les malades cœliaques, qui sont les vrais intolérants au gluten. Donc, c'est un peu la double peine pour eux. Et donc ce que j'ai développé pour avoir un pain de quinoa, donc avec une farine sans gluten à haute valeur nutritionnelle, j'ai travaillé sur des savoir-faire ancestraux pour transformer du manioc, le faire fermenter, le faire sécher aux UV solaires, pour ensuite l'incorporer dans ma farine sans gluten de quinoa et lui redonner sa capacité de panification.
Ouais. Votre projet Quinoa Dive a reçu le prix coup de cœur de l'Université de Montpellier. Vous êtes accompagné d'ailleurs par deux incubateurs d'Occitanie, Alter Incube et Agro Valo Méditerranée. Que va devenir Quinoa Dive, une entreprise?
Alors Quinoa Dive va se structurer en trois parties. Pour l'instant, j'ai déposé les statuts il y a quelques années d'une association de solidarité internationale. Mon projet, comme chercheur travaillant dans des pays en développement, c'est de pouvoir aussi transférer ce savoir-faire de panification aux principaux pays producteurs de quinoa dans les Andes, que ça soit pas détenu par un brevet dans une entreprise occidentale. Donc cette entreprise de solidarité internationale va être maintenue. Ensuite, développer une société classique dans l'économie sociale et solidaire pour produire un mix de panification qui pourra être, c'est un sachet prêt à l'emploi qui sera distribué dans tous les magasins bio spécialisés diététique santé pour que les particuliers ou les boulangers alternatifs qui travaillent le gluten puissent préparer leur pain. Et une troisième structure que je suis en train de réfléchir, penser, c'est une société coopérative pour fédérer une communauté de boulangers alternatifs qui utiliserait mon kit panification prêt à l'emploi pour produire un pain frais dans tous les territoires de France, au plus près des consommateurs qui ont des problèmes, des intolérances au gluten.
Mmh. C'est un produit sans aucun additif, hein, je le rappelle. En dehors des boulangers alternatifs, il y a aussi les producteurs de quinoa, il y en a quelques-uns en France. Peut-être, là, c'est un appel pour développer cette production sur le territoire.
Alors, l'idée de la production sur le territoire est vraiment en lien avec les boulangers qui peuvent avoir cette garantie de confiance par rapport aux consommateurs. C'est-à-dire que le malade cœliaque, qui est intolérant au gluten, a vraiment besoin de connaître toute la traçabilité pour qu'il n'y ait pas de contamination. Un agriculteur qui travaille plusieurs produits peut avoir des risques de contamination et donc le propre d'entreprise qui travaille du sans gluten, c'est justement garantir cette sécurité sanitaire pour les malades.
J'aime bien votre exemple et votre démarche, Didier, parce que là, on donne du concret par rapport à la recherche. Enfin, très souvent, on considère que la recherche elle se trouve en laboratoire fermé entre quatre murs. Et là, vous prouvez au contraire qu'on peut passer à une étape concrète de réalisation, de production d'un produit bio totalement assimilable et bon pour la santé. C'est un bel exemple. On va vous donner des liens, si vous voulez suivre l'innovation de Quinoa Div avec Didier Basile à nos pages d'émission. Merci beaucoup.
Merci à vous.
France Inter, carnet de campagne.
Dans la catégorie des métiers rares, nous choisissons aujourd'hui celui d'artisan roulotier. La roulotte, qu'elle soit d'attelage, d'hébergement insolite, de transport ou d'animation écologique, connaît un retour en force depuis quelque temps. Et Jean-Baptiste Durand, installé dans un minuscule village bourguignon, Berizeau, 120 habitants au dernier recensement, a fait ses gammes d'apprenti charpentier chez les Compagnons du Devoir avant de faire une carrière d'ingénieur. Désormais entrepreneur rural avec son uni-roulotte, il a construit avec l'association Berize Bar du même village une roulotte barbuvette à base uniquement de matériaux issus de la récupération. Et à la suite de cette réalisation, il entreprend de construire un complément avec une roulotte bloc sanitaire. Les deux constructions seront proposées aux associations locales dans le cadre d'événements culturels. Un financement participatif est en voie d'achèvement. Alors, il est bien mené, hein, j'en rajoute pas, mais si vous voulez contribuer à boucler le budget, pourquoi ? Pour terminer la construction, à laquelle surtout est associé un jeune apprenti dont l'embauche serait garantie à l'issue de ce chantier. Autrement dit, la campagne couvre l'achat des matériaux et une partie du salaire de cet apprenti, comme pour tout les sujets, toutes les initiatives, un lien sur franceinter.fr à la page carnet de campagne et sur notre page Facebook. Myriam Joly, bonjour.
Bonjour.
Myriam, j'ai un souci. J'ai régulièrement des trous dans mes chaussettes et en particulier au niveau du gros orteil, c'est normal.
Ah, mais mon pauvre monsieur. C'est que vous faites partie des 1% à peu près, hein, on a fait une statistique un peu grossière, de gens que nous appelons les mange-chaussettes. Donc ce sont des gens pour lesquels nous avons eu vraiment une pensée et sur lesquels on a travaillé et on a fait des chaussettes ultra solides, ultra résistantes pour ces personnes-là.
Ouais. Voilà. Bon, il faut les envoyer chez la pédicure. Myriam, votre histoire est géniale parce qu'elle est très belle. Vous êtes... une ingénieure agronome, fraîchement diplômée, 26 ans, il y a quelques années de cela. Et vous venez avec quelques chèvres angora, vous installez dans la ferme de Missaigle dans le Tarn. Vous aviez quel projet à ce moment-là ?
J'avais le projet de produire quelque chose que je vendrais en direct et quelque chose qui avait lié au textile, parce que j'aimais beaucoup tricoter. Et moi, ce que j'aime vraiment, c'est produire et vendre, c'est-à-dire ce lien avec le consommateur. C'est ce qui a été le fil directeur de ma vie.
Voilà. Ouais. Bon, au fur et à mesure, vous avez recréé une filière. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui s'intéressent, en travaillant avec des éleveurs, à relancer des filières laine. Vous, c'est une filière de laine mohair. Donc vous avez fédéré, comme on dit, des éleveurs autour de vous.
Oui, tout à fait. Alors fédéré, c'est peut-être un mot un peu ambitieux. Je dirais qu'on s'est retrouvés sur la même idée et qu'effectivement, moi étant dans un bassin lainier, j'ai pu collecter ces laines et les transformer pour les éleveurs, sachant que toutes ces laines se vendent dans les fermes, comme je faisais moi-même. Et puis ensuite, au fil du temps, là, mon projet a évolué. J'ai déroulé la pelote, si je peux dire, parce que les façonniers qui nous fabriquaient les différents articles, notamment les chaussettes, ont fait faillite. Je me suis retrouvée devant le dilemme dans 2007, de partir en délocalisation ou de franchir le pas et de passer dans la partie artisanale industrielle. C'est ce que j'ai choisi de faire. Donc, en 2007, j'ai arrêté la production, je dirais, sur ma ferme de mohair pour me consacrer au montage de cet atelier textile.
Mmh. Je regarde les chiffres, alors c'est ce qu'on dit sur beaucoup de produits importés. Donc, les Français achètent quelque 300 millions de paires de chaussettes par an. Oui. Et à 95%, ces chaussettes sont fabriquées à l'étranger.
Oui, c'est impressionnant. On a délocalisé complètement l'industrie textile. Voilà, on est sur une période passionnante. Moi, c'est vraiment l'histoire de ma vie. Donc, voilà, ça fait 40 ans que je suis là-dedans. Je peux dire que j'ai ramé pendant 30 ans à contre-courant parce que tout ça, je l'ai vécu. J'ai vu les usines fermées, j'ai vu tous les gens qui s'intéressaient à consommer plus, moins cher, enfin, tout ça. Et en même temps, moi, je croyais que forcément ça allait changer, ça pouvait pas continuer comme ça. Et donc quand j'ai repris l'entreprise en 2007, tout le monde m'a dit mais t'es complètement folle, dans le textile aujourd'hui il y a plus d'avenir, etc. 2008 arrive, la crise des subprimes, et là on commence de nouveau à sentir une réflexion des consommateurs sur le qu'est-ce que j'achète, d'où ça vient, etc. Évidemment, cette réflexion est encore encouragée par la période qu'on vient de vivre. Et donc là, depuis, notre projet a pu se développer d'une manière extraordinaire. Oui, je dis extraordinaire parce que j'ai monté quand même avec mon équipe. Aujourd'hui, on est 45. On a un atelier qui vient de se doubler de superficie. On a un parc machine à la pointe du progrès.
Myriam, comme on va dépasser trop vite le temps, parlez-nous maintenant de ces machines que vous avez installées chez vous.
Oui, alors donc les machines que j'ai installées chez moi, donc elles sont de deux types, ça c'est un peu atypique je dirais dans le textile, c'est-à-dire qu'on fabrique à la fois des chaussettes et des pulls. C'est-à-dire on est des bonnetiers, donc on travaille la maille, mais sur des chaussettes, donc des métiers italiens, et sur des pulls, donc des métiers japonais. Et donc là, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, j'ai choisi ce qui avait la technologie la plus évoluée, c'est-à-dire qu'en pull, on travaille en 3D, donc complètement sans couture et sans perte de matière. Et en chaussettes, on a un savoir-faire qui a d'ailleurs été récompensé par le label Entreprise du patrimoine vivant, qui est le remaillage à la main. Donc on est sur des technologies très très pointues, très fines, et c'est ce qui nous permet de valoriser les gens qui travaillent manuellement. Parce qu'en fait, le problème, si on veut qu'il y ait des gens qui viennent travailler dans l'industrie, il faut les payer. Et si on veut les payer, il faut qu'ils montent en compétences. Donc, tout ce que peut faire la machine, c'est la machine qui le fait. Et tout ce que peut faire l'homme, et y apporter une plus-value, ça permet de donner de la fierté à des gens et de valoriser des savoir-faire et de payer correctement des gens.
Ouais. Voilà. J'aime bien l'histoire de la jeune diplômée en 83 qui s'installe aujourd'hui à la tête de cette entreprise avec donc les ateliers que vous avez rachetés en 2007 et 2013 et les ateliers de sous-traitance de la fabrication. Entreprise du patrimoine, un nouveau bâtiment de 1500 m² en structure bois bientôt inauguré. Et puis surtout, vous produisez une bonne partie de votre énergie grâce aux panneaux photovoltaïques et vous allez continuer à développer ça. C'est une très belle histoire. Le site c'est missegle.com. Merci Myriam.
Merci Philippe, au revoir.
J'ai le temps rapidement de vous communiquer le courrier de Martine qui cite Pierre Seghers. Si la poésie ne vous est pas nécessaire pour vivre, alors faites autre chose. Tout cela pour annoncer le minuscule marché de poésie qu'elle organise à Cavaillon samedi prochain, qui a lieu toute la journée place Fleury Mitifio et aussi à la salle, à l'espace Léo Colombier, avec une soirée qui se terminera par un buffet amical. Alors c'est le minuscule marché de poésie samedi à Cavaillon. Pour l'instant, une autre poésie, celle du jeu des 1000 euros avec Nicolas Stoufflet.